glace que sous forme liquide, les icebergs flottent, hein, on le sait. Son maximum de densité est situé à 4 degrés Celsius et j'en passe. Autre caractéristique, contrairement à tous les autres liquides, sa compressibilité augmente à mesure qu'on la refroidit. Anders Nilsson est chimiste, c'est l'auteur principal de cette étude parue donc dans Science. Il a tenté de maintenir l'eau à l'état liquide aux températures les plus basses possibles pour voir s'il existait un moment critique susceptible d'expliquer la structure de l'eau. Il m'a expliqué à la fois sa technique et ses conclusions.
So to get to this very low temperature, you have to fight.
Pour arriver à des températures très basses, il faut lutter contre la cristallisation. Nous avons injecté dans le vacuum des gouttes micronisées que nous refroidissons très rapidement, en quelques millisecondes. Ensuite, nous les photographions de manière extrêmement rapide grâce aux rayons X. Et ce que nous avons découvert, c'est que le point critique pour l'eau est de moins 44 degrés Celsius. En effet, plus on baisse la température, plus la compressibilité de l'eau augmente de manière tout à fait inhabituelle par rapport aux autres liquides. La compressibilité continue d'augmenter jusqu'à précisément moins 44 degrés Celsius. À partir de là, elle se met à décroître à nouveau. C'est cela notre grande découverte. On a donc ce chiffre, moins 44 degrés Celsius. On sait qu'il se passe quelque chose de critique à cette température-là. Il y a beaucoup d'hypothèses scientifiques débattues aujourd'hui relatives aux propriétés de l'eau. Et cette expérience permet d'en écarter quelques-unes. Et l'hypothèse qui subsiste et que l'expérience vient appuyer consiste à dire que l'eau est en fait composée de deux phases liquides distinctes. Pour la valider, il faut introduire des modifications de pression, pas uniquement de température, comme nous l'avons fait. Mais l'idée, c'est que l'eau serait formée d'une phase dite de faible densité et d'une autre phase distincte, bien plus dense, probablement de 20% selon nos estimations. Et que si on avait un verre d'eau et qu'il était soumis à des conditions de pression et de température critiques, on verrait ces deux phases se séparer dans le verre, exactement comme de l'eau et de l'huile.
Voilà, cette hypothèse hein, des deux états liquides distincts de l'eau est la clé théorique des travaux d'Anders Nilsson que vous venez d'entendre, mais la question Zoé est tout de même assez loin d'être tranchée.
Oui, alors c'est une hypothèse hein, qui séduit dans le monde de la recherche, mais qui reste évidemment vivement débattue. Ils sont plusieurs dizaines de chercheurs dans le monde à travailler sur la structure de l'eau et ses propriétés, en l'abordant souvent par des techniques expérimentales qui sont différentes. Parmi eux, en France, il y a le physicien Frédéric Copin, qui est professeur à l'université de Lyon 1, qui a publié cet été un article sur la compressibilité maximum de l'eau en l'abordant cette fois par le biais de l'eau à pression négative ou eau étirée, d'ailleurs duquel Anders Nilsson s'est inspiré. Il est aussi et surtout le co-auteur d'un article, disons, concurrent paru avant-hier qui utilise une technique assez similaire mais pas tout à fait la même que celle d'Anders Nilsson. Pour lui, si l'hypothèse des deux phases liquides de l'eau est plausible, intéressante, elle reste pour le moment impossible à prouver et Anders Nilsson n'y est pas loin de là.
Cette existence de liquide n'est pas observée directement dans cette expérience. En fait, personne ne l'a jamais observée. C'est la prédiction du modèle qui semble cohérent avec les conclusions de l'article, si elles sont justes. Et donc, le problème, c'est que tout se joue dans des endroits qui paraissent inaccessibles à l'expérience. Donc, c'est ce qu'on appelle le no man's land, qui a deux températures entre lesquelles c'est impossible d'observer de l'eau liquide. Moi, j'ai un petit débat sémantique avec Anders Nilsson. Lui, il dit qu'il fait des expériences dans le no man's land. Et pour moi, c'est un contresens, parce que le no man's land, c'est là où on ne peut pas faire d'expérience. Et donc, c'est plutôt la frontière qui bouge. C'est-à-dire que si on va de plus en plus vite, comme il le fait avec son laser à rayons X, on arrive à observer l'eau liquide à une température un peu plus basse qu'on avait pu faire auparavant. Alors, moi, j'ai deux expériences sur la température la plus basse qui vient de paraître, en fait, avant-hier, là, dans Physical Regulators, où on a repris la technique des gouttes qui s'évaporent dans le vide, et on a trouvé une astuce pour réussir à mesurer leur taille. Ce que peut pas faire Anders Nilsson, parce que lui, il prenait juste des photos, et il pouvait les mesurer qu'à un micron près. On est 100 fois plus précis sur la taille des gouttes. En tout cas, nous, ce qu'on trouve, c'est qu'avec des gouttes un peu plus petites que les siennes, on atteint des températures un peu plus hautes. Et on s'attendrait à l'inverse, c'est-à-dire que comme les gouttes sont plus petites, elles devraient refroidir plus vite et atteindre des températures encore plus basses. C'est le contraire qu'on obtient. Voilà, alors, c'est deux expériences différentes. Voilà, la question est posée et il faudrait une confrontation. Ce serait une façon de conclure ce débat là qu'on a ouvert.
Voilà, et si vous voulez en comprendre et en savoir plus hein, sur ces particularités de l'eau liquide, solide ou gazeuse, on vient de vous mettre sur Twitter le lien vers l'émission que nous y avions consacrée, s'appelait L'eau, une histoire trouble, voilà, que vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc. En bref, maintenant Zoé, les États-Unis viennent de lever l'interdiction du financement de travaux de recherche qui visent à rendre certains virus plus meurtriers et plus transmissibles.
Il y a 3 ans, le gouvernement américain avait imposé un moratoire laboratoire sur la recherche dite gain of function, c'est-à-dire gain de fonction des expériences controversées qui visent à modifier donc les agents pathogènes pour les rendre encore plus dangereux. Et bien ce mardi, le directeur du National Institutes of Health a annoncé la levée de ce moratoire en déclarant que la recherche sur le gain de fonction pour des virus comme la grippe ou le SRAS pourrait, je cite, nous aider à comprendre et élaborer des stratégies ainsi que des contre-mesures efficaces contre ces agents pathogènes.
Déception pour les amateurs des petits hommes verts. Il n'y a pas de mégastructure extraterrestre de type Dyson autour de l'étoile de Tabby.
Oui, vous y avez cru, Nicolas.
Oh oui.
Au centre de l'attention depuis 2015, Tabby, qui est située à 1480 années-lumière, présente d'importantes variations de sa luminosité qui surviennent de manière totalement aléatoire. Et l'astronome Jason Wright avait émis l'hypothèse d'une mégastructure, donc de type sphère de Dyson, construite par des extraterrestres pour intercepter une partie de la lumière de cette étoile et donc remplir leurs besoins énergétiques de leur civilisation très évoluée. Et bien, c'est lui-même, accompagné de plusieurs autres chercheurs, qui publie cette semaine une étude poussée qui indique que c'est sans doute la présence de poussière qui est la cause la plus probable des variations de luminosité.
Voilà, le deuxième sujet de cette semaine, c'est l'Élysée qui a indiqué vouloir nommer le mathématicien et informaticien Antoine Petit à la présidence du CNRS.
Et ce, en remplacement d'Alain Fuchs, qui a quitté le CNRS pour prendre la tête de Paris Sciences et Lettres. L'intérim est pour le moment assuré par la biologiste Anne Perroche. Le choix du gouvernement doit encore être approuvé par la Commission des affaires culturelles et de l'Assemblée nationale, et ensuite celle du Sénat, qui vont tous les deux auditionner Antoine Petit. Mais selon toute probabilité, c'est bien cet agrégé de mathématiques, titulaire d'un PhD en sciences informatiques, qui est aujourd'hui à la fois à la tête de l'IHEST et le PDG de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. La méthode scientifique lui avait consacré une émission le 21 décembre dernier, qui prendra donc la tête du CNRS. Alors, qui est cet homme au profil scientifique assez inhabituel pour le poste? J'ai posé la question à François Sillion, qui travaille avec lui à l'INRIA, puisque c'est le directeur général délégué à la science de l'INRIA.
Ce que je souhaiterais, c'est que le profil scientifique d'Antoine Petit soit un non-événement, en fait, dans sa nomination. C'est-à-dire que le fait qu'il soit mathématicien et informaticien ne devrait pas être une question qu'on se pose. Si on mettait à la tête du CNRS, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant longtemps des physiciens, mais récemment un chimiste, on ne poserait pas la question. Ce sont des disciplines qui sont reconnues comme des disciplines scientifiques. Alors, vous avez raison, l'informatique en particulier, les sciences du numérique ne sont pas forcément reconnues comme des vraies sciences depuis très longtemps, mais c'est quand même un combat qui est gagné maintenant. Antoine Petit, c'est un excellent scientifique. Après, plus que son profil scientifique, je pense que ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui respecte et qui aime, j'allais dire, les gens, les chercheurs. Et un autre point très important, je pense, dans la personnalité d'Antoine Petit, c'est qu'il est convaincu qu'il faut favoriser cette continuité entre la recherche au meilleur niveau, la recherche y compris très académique et sur un temps très long. À INRIA, par exemple, on peut constater qu'il y a 50 chercheurs INRIA qui ont obtenu des financements du Conseil européen de la recherche. Donc ça montre qu'on peut avoir de la recherche d'excellent niveau et en même temps aller vers les applications et favoriser une culture, j'ai envie de dire, de l'innovation. Et ça, on a pu le voir par exemple à INRIA avec l'action d'Antoine Petit pour favoriser les possibilités des agents d'INRIA de créer des start-up. Vous voyez, tenir ces deux fils dans la même main, l'excellence scientifique d'un côté, sans concession, et puis la recherche d'un impact qui peut être important dans la société.
Et en bref, nombre record de médicaments mis sur le marché aux États-Unis l'année dernière, en 2017, une très nette hausse également en Europe.
Et le nombre de médicaments homologués en 2017 aux États-Unis n'a jamais été aussi élevé depuis 21 ans. Il y a eu 46 nouveaux produits qui ont reçu le feu vert des autorités américaines cette année. C'est plus du double de l'année précédente. En Union européenne, elle, de son côté, a homologué 92 nouveaux médicaments génériques, compris en 2017 contre 81 en 2016.
En revanche, la prévalence de l'autisme, elle, est rester stable aux États-Unis également.
Oui, après avoir explosé dans les années 70 et en particulier, surtout depuis le début des années 2000, la fréquence des troubles autistiques semble avoir atteint une sorte de plateau depuis 2012 et surtout depuis 2014 aux États-Unis, selon le réseau JAMA, pour qui l'augmentation constante de ces chiffres jusqu'à cette date peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, le reclassement de certains troubles neurologiques au sein des TCA, la notoriété plus importante de ces troubles et qui a permis un plus grand nombre de diagnostics, mais également des facteurs génétiques et environnementaux.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables et après les nombreux réveillons et nombreux de repas familiaux que nous avons tous dû encaisser plus ou moins les uns les autres ces dernières semaines, selon une étude, Zoé, les hommes mangent plus en présence des femmes pour les impressionner.
Effectivement. Alors, est-ce que là encore, c'est une rubrique Science Incroyable qui vient confirmer des intuitions que vous aviez? Eh bien oui, cette étude menée par les très sérieux chercheurs de l'université Cornell sur 105 hommes adultes de 18 à 81 ans, avec le concours d'un délicieux restaurant italien, et oui, il était là dans la Manche, elle confirme cette intuition. Les hommes mangent beaucoup, mais alors beaucoup plus en présence des femmes. 93% de bida en plus, c'est-à-dire que tout seul, ils ne la finiraient pas. Et là, en général, ils finissent en plus celle de leur compagne, pour montrer qu'ils sont là. 86% de salade. Messieurs, c'est très bien. Ce serait un moyen de montrer aux femmes qu'ils sont en bonne santé du point de vue de l'évolution. Les chercheurs suggèrent que voilà, le fait de trop manger montre qu'on a évidemment des capacités à être en bonne santé et à faire des enfants. Kevin Kniffin, le principal auteur de l'étude, rapproche ses résultats d'autres qui ont été obtenus par ailleurs, qui avaient déjà suggéré que le fait de manger des plats très épicés, par exemple, devant des femmes, était beaucoup plus fort pour crâner, justement. Ce serait une sorte de signal qui dit « je suis en bonne santé, je peux m'en sortir, je peux te faire des enfants ». Alors la question est maintenant, suis-je un homme, puisque j'ai tendance à faire la même chose?
Eh bien alors, voilà. Ce qui m'inquiète sur ma physionomie de maigrichon, il faut qu'on trouve un accord, Zoé, ça va pas du tout.